Vite.
Un conseil avant d'aller au bloc.
Découvrez les inspecteurs Doc et Didjoul, pleins d'humour et de sérieux, pas professionnels, pas impeccables, mais spécialistes de leur destin. Doc et Didjoul tentent d'élucider les malaises de la vie affective et sociale.
Sur Radio Transistor 101.4. Arrivons à ces 100. Radio Transistor 100.4.
Radio du cœur du cul, une émission féministe pour entendre et parler d'amour, de corps, de relations et de sexualité.
Radio du cœur du cul, la radio du cœur du cul.
Je veux 5 mg de lave en perfusion, 3 comprimés de communication et puis vous lui mettrez 3 séances de cul par mois, ça ne fera pas de mal.
D'un côté, un mâle dominant, agressif et multipliant les conquêtes. De l'autre, une femelle maternelle et passive. Les rôles attribués aux mâles et femelles ont la peau dure. Mais la diversité du vivant nous dit bien autre chose sur les rôles et les rapports de pouvoir. Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission du Cœur du cul, spéciale sexualité queer dans le monde animal. Alors, un brin d'historique pour affirmer nos propos. Les écrits relatant l'observation de comportements homosexuels chez les animaux remontent à l'Antiquité grecque, c'est-à-dire un petit 700 ans avant Jésus-Christ. On connaît Aristote, 400-450 ans avant Jésus-Christ, le premier naturaliste connu pour ses observations des animaux, voire des premières classifications, et relate dans Histoire des animaux des lores et qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage sur les questions de séparatisme des ovipares, vivipares, nullipares et toute la clique, c'est aussi un ouvrage des différences, décrivant des comportements homosexuels chez les cailles, les perdrix et les coqs. Puis, on voit apparaître en 380 avant Jésus-Christ les premières classifications des animaux par genre et par espèce. Le problème, c'est qu'à cette époque et encore aujourd'hui, les personnes scientifiques étaient uniquement des hommes. Ça n'a pas beaucoup changé, puisqu'encore à l'heure actuelle, c'est que 29% des femmes qui représentent les scientifiques. Pardon. Aujourd'hui, c'est un sujet passionnant, mais qui dérange et qui vient mettre à mal la théorie de Darwin qui affirme que les animaux s'accouplent pour procréer. Oui, apparemment, Darwin ne connaissait pas le plaisir. Alors oui, pourquoi du sexe s'il n'y a pas de bébé? C'est contre nature. Cette idée du contre nature est maintenue par l'Église encore aujourd'hui. Bon, alors, petit rappel nécessaire, l'Église est la première, j'ai envie même de dire la plus vieille institution, en matière de pédocriminalité. Parce que le violer les enfants, c'est pas contre nature apparemment. Alors, sur les années passées, si des comportements sexuels homo étaient constatés, eh bien les scientifiques, eux, ne prenaient pas le risque de se faire insulter d'homosexuels. Ah oui, oulala, la terrible insulte. Et ils restaient donc dans un bon gros déni. Alors oui, Aristote porte de petites notes sur les canards, les perdrix, les coqs, mais il faut attendre Bruce, comment on dit Bruce, Beckmill. Waouh, quel accent poulpi. Qui publie un livre en 99 sur la diversité naturelle dans les rapports sexuels des animaux et observe très précautionneusement 500 espèces, chez qui il détaille des comportements homosexuels. Donc voilà, ce soir on a plutôt envie de vous dire et de vous affirmer et de vous démontrer que finalement, la sexualité, c'est une affaire très, très large.
La grande diversité de la sexualité.
Exactement. C'est ça qu'on va essayer de faire. Et peut-être ça va être un petit peu décousu parce que finalement, on s'est dit « Oh oui, une heure d'émission sur ce sujet, ça va être super. » Et finalement, quand on commence à mettre le doigt dedans, eh ben, on rentre dans un espèce de vortex interminable sur lequel on pourrait parler des heures et des heures. Et puis en plus, nos collègues sont en reportage spécial, donc ça nous fait des petites émissions un peu comme ça, un peu patchwork finalement.
Mais retenons une chose, le plaisir avant tout.
Ouais, j'adore quand tu dis ça, le plaisir avant tout.
Tic-tac, tic-tac, la thématique, la sémantique.
Thématique, la thématique du jour.
Tu
FM, la tic, c'est tout de suite, là, c'est maintenant.
Mathématiques, c'est ta thématique. Thématique.
J'aime ta tic.
Alors, pour cette thématique, moi, je vais vous lire un article qui a été écrit par Vinciane Després, qui est une personne que j'apprécie beaucoup. En deux mots, je vous la présente. C'est une philosophe qui s'intéresse beaucoup à l'éthologie et qui s'est orientée vers la philosophie des sciences et plus particulièrement à notre rapport aux animaux. Alors, son article s'appelle « Tous les goûts sexuels sont dans la nature ». Pingouin homosexuel, baleine échangiste. Les sexualités inventives des animaux étaient là bien avant qu'on veuille les voir. Pour ce faire, il fallait accepter que l'animal, en matière de sexe, n'est pas plus économe que l'homme, et que si tout est dans la nature, rien n'est contre elle. Au zoo d'Edinburgh, entre 1915 et 1930, vivait un groupe de pingouins. Dès son installation, il fit l'objet d'observations minutieuses de la part des zoologues, qui commencèrent par attribuer un prénom à chacun en fonction des couples qui s'étaient formés. Les prénoms des animaux étaient établis sur le présupposé que chaque ménage comprenait un mâle et une femelle. Or, on dut se rendre à l'évidence, certains étaient formés de deux mâles, d'autres de deux femelles. Au terme de 7 ans d'observation, on réalisa que toutes les attributions, sauf une, étaient erronées. Andrew fut rebaptisé Anne, Bertha devient Bertrand, et celle qu'on croyait être sa compagne Caroline s'avéra en fait un compagnon qu'on dut appeler Charles. Quant à Eric et Dora qui filaient un amour paisible, ils devinrent Erika et Dora. Cette anecdote, rapportée par ce fameux biologiste Bruce Page Mill, est une exception. Les comportements homosexuels dans le monde animal ont longtemps été à peu près ignorés par les éthologistes. On pouvait aisément les considérer comme des pathologies comportementales dues aux effets de la captivité ou comme des pratiques par défaut de partenaires adéquats. La nature, elle, restait a priori beaucoup plus sage. De la fixité des conduites sexuelles. Aujourd'hui, tout a bien changé. Bonobos, élans, dauphins, insectes, mouettes, loups, geais du Mexique et quantité d'autres espèces, pingouins compris, ont été au cours de ces 20 dernières années invités à témoigner sur leurs habitudes sexuelles. Qu'a-t-on découvert ? Que les pratiques homosexuelles, l'auto-érotisme et autres fantaisies, loin d'être l'exception, sont très fréquents chez quantité d'espèces animales en liberté. Bruce Page Mill, auteur en 1999 d'une synthèse remarquée sur le sujet, recense que chez les seuls mammifères et oiseaux, plus de 300 cas d'espèces se livrent à des activités ouvertement homosexuelles, copulatoires ou masturbatoires. Ensuite, le fait que l'homosexualité se voyait, grâce à la sociobiologie, décerner la caractéristique tant enviée de comportement naturel, allait recevoir contre toute attente un accueil plutôt mitigé. Pour certains, moment gay, en effet, ces observations arrivaient à point nommé. Elle légitimait l'homosexualité humaine en l'inscrivant dans la nature. Mais d'autres courants ont violemment contesté cet argument, car ce genre de naturalité, comme l'explique Bruce Page Mill, permet de justifier les pires comportements comme l'esclavage, puisqu'on trouve des fourmis esclavagistes, ou même l'homophobie, puisqu'il y a des espèces de cervidés homophobes. En s'adressant à la bonne espèce, chacune de ces pratiques peut être taxée de naturelle. La nature que propose cette nouvelle biologie devient queer, au double sens du terme. Celui qui désigne les homosexuels et celui qui désigne étrange, bizarre, singulier, voire suspect. Elle est en effet beaucoup trop bavarde, beaucoup trop diverse et contradictoire. Elle ne peut nous dire qui puisse être généralisé. Même si la reproduction est un facteur important dans la vie des animaux, elle ne prétendra en épuiser le sens. Il y a quantité de façons par lesquelles mâles et femelles interagissent. Les manières de s'accoupler, de s'attacher, de séparer ou de rester ensemble, d'assumer les fonctions parentales, présente une telle diversité qu'il en devient difficile de parler de normes naturelles. La sexualité dans son ensemble est une telle inventivité, d'une telle diversité, qu'elle doit être rattachée à ce que nous appelons des comportements culturels dans la nature.
Waouh ! On adore Vinciane Després.
Ouais.
Et j'aime beaucoup parce qu'elle cite donc ce Bruce qui est quand même, je dirais, la première personne des années contemporaines à faire des études sur l'homosexualité des animaux. Et ce type, il différencie 4 groupes d'homosexualité. Le premier groupe, c'est la parade homosexuelle, qui est une sorte de chorégraphie de différentes parades hétéro, enfin, très différentes des parades hétéros. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des mâles qui, entre eux, se rajoutent des petites courses et tout ça, en tout cas, qui se stimulent par de la danse et voilà. Il y a un deuxième groupe qui serait le groupe de rapports légers, qui, eux, ce groupe-là ferait des câlins, des caresses. Moi, je pense toujours aux dauphins, aux dauphines d'ailleurs, qui se lèchent des heures et des heures, mais beaucoup de fois dans la journée en plus. Enfin, voilà. Et à côté de leurs petits, des fois. C'est trop mignon. Bon, voilà. Et qui font des bruits aussi trop mignons, mais on ne vous les passera pas aujourd'hui. Il y a aussi le troisième groupe sur les rapports sexuels, où là, plutôt, on ne parle pas que de pénétration, mais ça peut aussi, il peut aussi s'agir de cunis de d'autres animaux ou de. Voilà, ou de même.
De fellation.
Ouais, de fellation. Mmh. Ou aussi.
De masturbation.
Exactement. Ou au même.
Avec des sextoys, même.
Exactement. Mais c'est génial. Je commence. Je fais. Et hop, tu finis les phrases, j'adore. Mmh. Mais si. Et par exemple, ils peuvent utiliser des morceaux de.
Cailloux.
Oui, par exemple. Ou de.
Bois.
Oui, de branches, j'adore. Et puis.
Ils utilisent même des bouteilles plastiques.
Ah bon?
Ouais.
Ah bah là, c'est pas hyper nature, ça. Mais,
non, c'est pas nature.
Ouais.
Mais bon, c'est pas non plus contre nature.
Non, pardon.
Nous aussi, on aime bien utiliser le plastique, d'ailleurs.
Oh, ouais, c'est clair. Même le silicone, enfin bon, ouais. Et puis, il y a un quatrième groupe qui est le groupe de éventuellement former un couple ou des troupes ou des quadruples, je ne sais pas comment.
Des grosses partout.
Oui, ou des groupes de partout.
Comme les bonobos.
Exactement. Et pourquoi pas s'occuper éventuellement d'une progéniture, comme par exemple deux mâles pourraient s'occuper ou trois mâles pourraient s'occuper d'une progéniture. Il arrive qu'il y a des mâles, je ne sais plus c'est sur quelle espèce, qui se disent « Ah tiens, les hétéros ont rejeté leur œuf. Ah bah tiens.
Les pingouins.
Ah c'est les pingouins. Il y a aussi les oiseaux, je crois. En tout cas, qui se disent « Bah tiens, super, adoptons-le » et qui s'occupent de l'œuf ou de l'animal. Voilà. En tout cas, qu'on s'y méprenne, la parade, parce que ça, c'est souvent un truc quand même, c'est que la parade et les rapports légers, c'est pas nécessairement la volonté d'un coït et pas non plus la volonté de s'accoupler pour se reproduire. Et les conservateurs du contre-nature ont ensuite reproché aux études de Bruce qu'elles avaient été pour la plupart menées, donc les 500 espèces là, elles avaient été menées sur des animaux en captivité et pas avec des animaux sauvages. Donc il y a des personnes qui ont dit « Oui, mais hop, réduction du territoire, ça veut dire aussi moins de chances, moins de partenaires, donc ça amène forcément à l'homosexualité. » Bon, déjà, moi, j'aime pas trop cette idée parce que ça veut dire, en gros, t'as pas mieux, donc en fait, tu kennes ton copain. Mais c'est sûr que c'est moins facile à observer en milieu sauvage des animaux. Mais des études ont quand même été faites aussi sur des animaux sauvages et on peut carrément distinguer qu'il y a des rapports homosexuels, tout pareil. Et à la fois, c'est quand même un peu particulier de se dire, évidemment, par exemple, chez les lions, bah, c'est hyper facile de se dire, oui, bah, un lion, on le reconnaît parce qu'il a une crinière et tout ça. Ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, il y a des lionnes qui arrivent à se faire pousser la crinière pour imiter les lions ou parce que on peut supposer qu'elles ne sont pas très contentes dans leur genre et qu'elles ont envie de changer de genre, ou en fait elles en ont marre d'être violées, ou en fait, voilà, pour sûrement tout un tas de raisons. Et en tout cas, on constate aussi que dans la nature sauvage, souvent on ne sait pas qui est le mâle ou qui est la femelle et qu'on a besoin de faire des prélèvements de sanguin pour déterminer si oui ou non il y a un genre très déterminant, quoi. Voilà, je voulais dire ça.
Mais juste pour préciser quand même, ce fameux Bruce et ce qui lui a été reproché, ça a été de mettre des mots que plein de scientifiques avaient voulu esquiver et qu'en fait il y avait quand même plein d'études éthologiques qui parlaient de relations homosexuelles ou d'auto-érotisme, mais que les éthologues de l'époque, pour lesquels ils trouvaient des argumentaires autres tels que en fait ils sont pas bien ou c'est quelqu'un de la famille ou créer leur réalité pour...
Anthropomorphisme.
Voilà, exactement.
Exactement, nous allons en parler dans cette émission. Qui continue d'ailleurs encore, hein, parce que je veux dire, on parle d'une certaine... Enfin, on a l'impression qu'on parle d'une certaine époque, mais ça continue, je veux dire, on est toujours un peu dans cette même vision des choses, quoi.
Ouais, mais ça fait quand même une vingtaine d'années qu'aujourd'hui, on parle de la pluralité de la sexualité dans le monde animal.
C'est clair. Heureusement. Grâce à... Oui, enfin, on y reviendra. peut-être maintenant, on pourrait écouter donc notre reporter spécial, Didjoul, qui est parti très très loin, même peut-être un peu trop loin, et qu'on va l'écouter, puis on fera des petits commentaires après.
des animaux.
Bonsoir les petits enfants, je suis content que vous soyez là. Ce soir, nous allons vivre un magnifique, je le pense, conte de fées. La vie des animaux. Venez avec moi, je vous emmène. Je vous emmène voir mes copains, les animaux. Ils parlent, vous allez voir, ils ont quand même des choses à dire. Vous allez voir.
Hé Bernard, tu sais la petite Lucette là, que t'as rencontrée au bal l'autre jour? Eh ben, elle est folle de toi. Mais fais pas cette tête là, Bernard. Elle est derrière toi, elle voulait te parler. Elle t'a écrit un poème d'amour. Elle est là, regarde.
Je te salue, mon ange, je te salue, mon trésor, je te salue, mon amour, je te salue, mon roux doudou, avec qui j'ai dansé toute la nuit. Je te salue, prince de mes nuits, je te salue, et je te re-salue, et je te re-re-salue.
Mais elle est complètement tarée, celle-là, ou quoi?
La vie privée des animaux de Patrick Bouchetet, que l'on vient d'entendre, vidéo humoristique des années 90, c'est une espèce de zapping d'images animales sur lesquelles Patrick Bouchetet pose un imaginaire humoristique de relations sociales. Des interactions entre même espèce, une relation entre un crabe et un lézard. Les possibilités sont multiples, ainsi que les références à des scènes quotidiennes humaines. Anthropomorphisme, éthologie, Patrick Bouchetet ne serait-il pas éthologue? Car quelle différence entre sa projection sur les interactions animales et celle de la grande science que l'on appelle l'éthologie? L'éthologie ne serait-elle pas la simple projection des humains sur l'animal? Comment penser une simple analyse des comportements animaux sans en projeter en miroir le comportement des humains? Le comportement humain influencé par les oppressions systémiques et donc de la société patriarcale et raciste. Petit souvenir de documentaire. Je regarde un documentaire sur les grizzlies sur Arte. On suit différents individus tout au long du métrage, avec des commentaires d'un scientifique spécialisé en grizzlies. À un moment, un nouveau grizzly arrive dans le groupe, un mâle. Un autre mâle s'approche de lui. Semble le reconnaître, d'après le scientifique. Ils se lèvent tous les deux sur leurs pattes, se reniflent, puis se mettent à faire des câlins, à se lécher, à se mordiller. Moi, je me dis, oh, enfin, en plus, on est sur Arte, et vous nous parlez d'homosexualité chez les animaux. Et là, les ours se mettent à se faire une fellation et à se branler. Et quelle est la réaction du scientifique? Je cite. « Oh, ça doit être un membre de la famille, sûrement un lointain cousin. Ils n'ont pas dû se voir depuis longtemps. Ils sont très très contents de se retrouver. » Pas un soupçon de possibilité de relation homosexuelle. Une pipe égale un lointain cousin, évidemment. Pourquoi est-il si difficile d'imaginer des relations homosexuelles entre animaux? Certains éthologues justifient les pratiques homosexuelles chez les oiseaux, non pas comme une envie et un désir, mais comme une réponse à un manque de présence d'un genre femelle ou mâle dans l'espèce. Ou encore, la LPO PACA le justifie par la présence, attention oui, la présence de pesticides. Je cite, « L'homosexualité concerne beaucoup d'oiseaux d'eau. Goélands, mouettes, canards, oies. C'est peut-être dû à des perturbations environnementales. Les pesticides ont potentiellement une action féminisante sur les embryons chez les mouettes et les goélands. » Aberrant, non? Pourtant, heureusement aujourd'hui, il existe d'autres scientifiques que Darwin et que les ornithologues de la région PACA, et notamment l'éthologue Fleur d'Auger, qui a écrit Animaux homo, histoire naturelle de l'homosexualité. En retraçant l'histoire de l'observation et de l'interprétation des comportements des animaux par les savants, de l'Antiquité à nos jours. Dans cet ouvrage, on découvre que les animaux font l'expérience de l'orgasme, que la sexualité est avant tout une quête de plaisir et non de reproduction, que le plaisir existe même chez les insectes, et que dans toute forme animale, il peut y avoir de l'homosexualité, de l'hétérosexualité, de la bisexualité, de la monogamie, de la polygamie, que la formation du couple est une particularité humaine qui n'existe pas chez toutes les espèces, que l'incompréhension de l'homosexualité animale nous vient du darwinisme, qui est une théorie selon laquelle l'évolution, c'est la reproduction. Dès lors, comment comprendre qu'un comportement non reproducteur puisse se maintenir et se perpétuer dans la nature, alors qu'il n'y a pas, a priori, d'enjeu de descendance?
Super ce petit reportage, dit Jules. Incroyable. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission, on pourrait critiquer la théorie de l'évolution de Darwin, mais on ne va pas faire ça. Et puis on pourrait surtout constater qu'en fait, le sexe n'est pas fait que pour se reproduire. Nous ne le dirons jamais assez. Et qu'il est une question de plaisir aussi. Et de codes sociaux apparemment, non?
Eh bien si, carrément. Les femelles macaques à face rouge passent beaucoup de temps à se frotter la vulve mutuelle entre elles. Et aussi, elle se masturbe sur des cerfs. Mais sur des cerfs, l'animal.
Mais bon, les maquettes sur les cerfs.
Ouais.
Et, du coup, les cerfs se laissent faire.
Et les cerfs se laissent faire. Et attends, encore plus intéressant, c'est que les cerfs se laissent faire pour les femelles, mais les mâles macaques à face rouge ne peuvent pas approcher un cerf. Et c'est hyper drôle parce qu'elles se retrouvent à plein de femelles autour du cerf et des fois, elles se battent entre elles la masturbation sur le cerf et des fois, elles se masturbent à plusieurs sur le cerf.
Mais c'est parce qu'il a des bois ?
Non, parce qu'elles se frottent sur les pattes.
Ah, waouh !
Ouais, donc les relations interespèces, elles sont aussi existantes.
Ah oui, ça c'est
sûr.
On
en parle rarement, mais voilà, on peut... se donner du plaisir entre différentes espèces.
Et après, on parle quand même pas mal des... Enfin, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les singes, notamment parce que pendant des années...
Nos proches cousins.
Voilà, on dit ça. Du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup d'analyses. Et tu vas finir par nous parler de ces bonobos ou pas ?
Ouais, je vais carrément finir par parler des bonobos parce que les bonobos, c'est un peu les champions et championnes de la partouze. Et ils passent beaucoup de temps, du coup, à forniquer les uns les unes avec les autres. Et... peu pour la reproduction et beaucoup pour apaiser les tensions dans le groupe. Donc, c'est un peu leur petit rituel de plaisir pour se détendre, en fait. Et c'est marrant parce que, du coup, dans les différentes études éthologistes, on constate qu'il y a très peu d'embrouilles, en fait, dans les clans des bonobos. Et voilà la petite phrase.
Qu'on parle carrément de mode de résolution de conflit, quoi. Et que les trois quarts des rapports sexuels chez les bonobos n'ont pas de fin reproductive, mais plutôt ont des buts sociaux. Et que ça fait effectivement des tribus, des communautés, je ne sais pas comment on les appelle, qui sont plutôt apaisées, apaisants.
Et dans ces partouzes, ils font du sexe pénétratif, mais aussi des fellations, des caresses génito-génitales.
Voilà, maintenant,
un peu plein de choses, quoi. Activité sexuelle des bonobos comme des chimpanzés qui n'ont... Non, je répète, on zappe cette phrase.
Ouais, en tout cas, les scientifiques ont appelé cette méthode d'accouplement de sexualité le sexe convivial. J'adore. C'est parce que j'aime bien aussi le contact visuel est très important dans les relations sexuelles des bonobos. C'est qu'en fait, quand ils baisent, ils se regardent dans les yeux, mais vraiment, quoi. Sauf quand ils font des levrettes, mais parce qu'ils font ça aussi, hein. Mais sinon, ils ont un échange dans les yeux de dingue. Mais c'est des échanges qui durent parfois très peu longtemps. C'est vraiment... C'est même, parfois, ça peut être quelques secondes. Hop, je passe à côté de toi. Tic, tic. Hop, et c'est fini. Je passe à quelqu'un d'autre. Et hop, et on se met plusieurs. Bon, voilà. Les singes bonobos ont été beaucoup étudiés. Ils sont quand même très sexuels, quoi. Tu voulais aussi nous parler des écureuils ?
Et je voulais parler de l'écureuil de Terre du Cap, qui est... une espèce d'écureuil que j'ai découvert il y a peu en me renseignant sur ce sujet qui est la pluralité de la sexualité chez les animaux.
Tu as dit les couilles-roy. Évidemment, mais... ça me fait beaucoup rire. Ouais.
Mais tu sais pourquoi j'ai dit ça ? Parce que cet écureuil a des couilles énormes.
Ah,
oui.
Les couilles-roy, j'adore.
Voilà, tu vois, je vois dans mes notes, je vois la photo de l'écureuil et je vois ses grandes couilles et je dis les couilles-roy. Voilà, un petit lapsus. Mais bon, il a certes des grosses couilles, mais aussi c'est un écureuil qui pratique énormément l'automasturbation pour une raison qu'on dit utile, du coup, qui n'est pas que pour le plaisir, mais quand même un peu aussi pour le plaisir. Mais c'est qu'en fait, les écureuils de Terre du Cap, les femelles ont des relations en 3 minutes avec environ 10 mâles d'affilée. Et en fait, pour éviter de se transmettre des maladies sexuellement transmissibles, du coup, après chaque rapport, l'écureuil mâle va se faire une petite masturbation pour une toilette génitale, en fait.
Waouh.
Voilà.
Voilà.
Aussi simple que ça.
Ça me donne tout de suite envie de me masturber, mais on n'a qu'à écouter une petite chanson comme ça.
Voilà, nickel.
Super. À tout de suite.
C'est ça qu'il nous fallait.
Exactement.
Chaînes, sortilèges de sorcières et désirs de salopes. On occupera la nuit de nos rêves malpropres. La puissance de nos mères et la douleur des coups, la colère et les nerfs à la sueur de guerrières. On dessinera la rue à la gloire de nos sœurs. Qui va là, 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 qui va là. Qui va là, 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 qui va là. C'est nous la menace, on prend la place, on a la glace, on se lève et puis on se casse. C'est nous la menace, on prend la place, on a la glace, on se lève et puis on se casse. Qu'on soit elle, il ou elle, qu'on se couvre de voile, on nous brûle quand on s'aime, nous enferme à l'enfer. On écrira l'histoire de nos corps incendiés. Au cœur du capital, au sang du patriarche, on répandra les flammes et valse la vengeance. C'est sur les braises du monde que nous irons danser. Qui va là, 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 qui va là. Qui va là, 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 qui va là. C'est nous la menace, la menace, on prend la place, on a la glace, on se lève et puis on se casse. C'est nous la menace, on prend la place, on a la glace, on se lève et puis on se casse.
Continuons donc cette émission. En tout cas, maintenant, on voulait enchaîner sur un petit reportage de notre ami Nassim, qui est parti bien loin dans d'autres contrées et qui a beaucoup de choses à nous raconter.
Et quand même, la chanson qu'on vient d'écouter, qui s'appelle « L'attaque des louves », a été écrite par ce fameux reporter Nassim. Et donc, il y a quelques années, et depuis, est reprise dans...
C'est propagé.
De manière nationale, voire internationale, dans les chorales militantes féministes.
Pour cette nouvelle émission des Courriers du Cœur et du Cul, nous avons interrogé spécialement l'éthologus Mariam Hassouna pour nous parler de la sexualité des animaux, qu'elle a étudiée pendant de nombreuses années, à l'issue desquelles elle a sorti un livre intitulé « Le mal alpha n'existe pas » aux éditions de la Mente religieuse. Mariam Hassouna, bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions pour cette émission sur la sexualité des animaux non humains, n'est-ce pas, comme vous précisez à chaque fois dans votre livre.
Oui, bonjour Liana Roum et Lamrea Wiss. Alors, je vais commencer par une petite introduction que j'ai préparée pour cette émission. Donc, on avait l'exemple emblématique des mentes religieuses qui dévorent leur partenaire sexuel après l'accouplement. Enfant, on comprenait cet acte comme une sorte d'exception monstrueuse dans la nature, une situation inédite qui viendrait contredire l'ordre supposé naturel, immuable et sans conteste de la domination masculine. Bien sûr aussi, on a le fameux concept du mal alpha, dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre. Voilà ce concept qui a été théorisé dans les années 40, donc qui vient bien de l'éthologicus, l'étude du comportement animal. Et voilà, ce concept, il avait été utilisé pour décrire le comportement de loups, mais qui était observé en captivité. Et en fait, depuis, on s'est rendu compte que, en réalité, ce n'était pas tout à fait représentatif même du comportement des loups, qui, figurez-vous, en fait, pour lesquels, en fait, dans les meutes, on a plutôt un couple alpha dans la meute. Et donc, c'est un couple, un mâle et une femelle, qui sont les seuls à avoir le droit de se reproduire dans les meutes de loups. Et voilà, mais ces meutes, elles fonctionnent en plus, par ailleurs, plutôt comme des structures coopératives à bien des égards. Les normes binaires ou hiérarchiques qu'on projette sur le monde animal est à revoir de bout en bout.
J'aimerais savoir s'il y a des exemples de parentalité non centrée sur les femelles dans le monde animal non humain. Deuxièmement, si vous pouviez nous parler des pratiques sexuelles, un petit tour d'horizon des pratiques sexuelles des animaux non humains. Et en dernier lieu, si vous pouviez nous parler de certaines morphologies atypiques des organes sexuels des animaux.
parler de quelques espèces qui organisent des petites nurseries, des garderies pour les enfants, les petits du groupe. Alors, on trouve ça chez les éléphants, chez les lions, chez les manchots empereurs, chez les dauphins, chez les suricates, les fourmis, les abeilles, et j'en passe, et des meilleurs. On a aussi des espèces où ce sont les mâles qui assument presque exclusivement la responsabilité des petits. Donc, on a par exemple les émeus et les cassoirs, qui sont des oiseaux australiens. Et donc, c'est le mâle qui va couver les œufs pendant environ 2 mois. Donc, il ne va pas quitter le nid pendant 2 mois, il ne va pas se nourrir pendant 2 mois. Et à l'éclosion des œufs, c'est lui qui va s'occuper des poussins, qui va les protéger jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands. Alors, si on passe un peu sur la question de la forme, la morphologie des organes génitaux chez les animaux, qui elle aussi est encore riche de variété, on peut parler du pénis, entre guillemets, des femelles néotrogales, qui sont des mouches qui ont en fait un organe. Donc les femelles ont un organe qui s'appelle le gynosome. Et donc, cet organe ressemble un peu à un pénis. Et donc, c'est la femelle qui va insérer son gynosome dans le mâle et qui va récupérer le sperme. On a aussi la vulve à dard de la guêpe parasitoïde. La vulve à dard, c'est une espèce d'aiguille qui se trouve sur le dard de la guêpe femelle. Et en fait, elle va mettre ses œufs, déposer ses œufs sur le corps ou dans le corps d'autres insectes. Donc, ce dard de ponte lui permet de mettre ses œufs à l'intérieur. Et puis, les larves vont se développer en consommant les tissus de l'hôte, de l'insecte dans lequel se trouvent les œufs. On a aussi le pénis amovible de certaines limaces. Donc ça, il y a pas mal d'espèces qui ont des pénis amovibles ou détachables. Donc le pénis va carrément se détacher pendant la copulation. Et puis après, le mâle limace va être capable de faire repousser un nouvel organe reproducteur pour le prochain accouplement. Les serpents, les lézards ont aussi ces pénis complètement détachables.
Enfin, nous aimerions savoir ce qu'est la parthénogenèse et avoir un exemple de celle-ci dans le monde des animaux non humains.
Alors la parthénogenèse, c'est un mode de reproduction en fait, qui se passe du spermatozoïde. Et donc, l'organisme se reproduit sans que l'ovule soit fécondé par un spermatozoïde. La femelle peut se reproduire en fait en l'absence d'un mâle. La femelle, pour perpétuer l'espèce, va se reproduire toute seule, donc à partir de son seul génome. Et c'est une reproduction qui va être assez rapide et qui permet de perpétuer l'espèce, surtout dans des environnements instables ou dans des conditions où les ressources vont être limitées. Mais nous nous acheminons vers la fin de notre petite émission, de notre petit tour d'horizon.
Merci pour toutes ces anecdotes. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de la coparentalité qui est assez fréquente dans la nature, qui n'est pas du tout fréquente chez les humains. Mais dans le monde animal, on recense de nombreux cas de coparentalité entre individus. L'étude de la coparentalité homosexuelle chez les oiseaux a été retardée par l'idée d'une hétérosexualité universelle. On en revient toujours au même. Auparavant, les scientifiques présupposaient que les couples d'individus qui partageaient un nid étaient tous composés d'un mâle et d'une femelle, parce qu'ils n'avaient pas prélevé des petits échantillons sanguins.
Et on a parlé de différents types de sexualité dans le monde animal, et on a peu parlé de la transsexualité chez les animaux. Et en fait, il y a beaucoup d'animaux qui sont transsexuels, et qui décident du coup de changer de sexe à des moments différents de leur vie pour différentes raisons. Et il y a un documentaire qui a été réalisé en 2023 par une réalisatrice belge qu'on n'a malheureusement pas eu l'occasion de voir encore parce qu'on ne le trouve pas sur le net ou les réseaux. Mais on le cherche. Mais je voulais quand même vous passer la bande-annonce et vous lire le résumé. Ce documentaire s'appelle Queerying Nature, qui a été réalisé par Aline Magrez et Léonore Palmera. Depuis une vingtaine d'années, les scientifiques, armés d'un regard neuf et libéré, ont révélé un monde animal où sexualité, genre et famille riment avec diversité. Être queer, c'est naturel. D'une rencontre à l'autre, le film entremêle les réflexions et les émotions de deux artistes inspirés par cette nature queer et la pluralité des comportements animaliers imagés poétiquement.
Les combattants variés, c'est des oiseaux limicoles qui développent des collerettes de plumes pendant la période de reproduction. Et alors, il y a des mâles qui développent des collerettes plus ou moins, de plumes plus ou moins blanches et d'autres des collerettes de plumes plus ou moins noires. Et alors, les collerettes blanches restent avec les femelles. Je dois dire que quand j'ai commencé à transitionner, il y a un truc qui me faisait peur, c'était de sentir en insécurité parmi les autres mâles. Quand j'ai commencé à avoir ces exemples-là de masculinité transgressive, ça m'a donné un peu de courage. Je me suis dit que j'allais être une collerette blanche.
C'est un projet politique, le projet queer, dans la mesure où c'est un projet à la fois qui touche à la subjectivité, je ne dirais pas à l'identité, mais aux subjectivités, et à la fois où un projet qui touche à la question de l'accueil de la différence et de l'appétit. Pas une question de tolérance du tout, mais de l'appétit pour la différence.
Si j'avais été considérée comme normale, j'aurais gagné un temps dingue à ne pas devoir guérir tous les jours de cette guerre incessante, guérir de cette guerre qu'on a déclarée dans ma tête comme un incendie. Dans ma tête, il y a une fête dont j'ai pas le contrôle. À tout moment, elle peut glisser vers la guerre civile et moins qu'une trône. Scandale ! J'ai pas choisi l'étiquette qu'on m'a collée autour du cou. Scandale !
L'être humain, il est profondément lié au monde animal, puisque nous sommes nous-mêmes des animaux, ce qu'on oublie souvent ou ce qu'on ne veut pas accepter.
Darwin, par exemple, était inscrit dans le monde victorien, donc il n'était pas question qu'il imagine autre chose que la passivité féminine des femelles et que la dureté de la vie des grands mâles dominants avec l'impérialisme derrière.
Il y a beaucoup de gens qui disent « mais les animaux sont tous hétérosexuels ». Eh bien non, eux aussi. Ils ont toute une panoplie de pratiques sexuelles qui est même bien plus étendue que celle qu'on a chez les humains.
Depuis l'enfance, il y a des corps qui portent des traumas et qui ne guériront jamais. Et c'est pas mal de prendre la métaphore de certaines espèces animales pour en parler.
Il y a aussi quelque chose qui est très important dans la biodiversité dont on ne parle pas assez, c'est la diversité comportementale.
C'est de là que naît la biodiversité. Fondamentalement, c'est de cette mouvance, de cet esprit queer que possède l'évolution depuis les tout débuts. On continue à voir, y compris chez des espèces très figées comme le sont les vertébrés, c'est-à-dire des espèces un peu comme nous-mêmes.
Waouh, ça donne trop envie de voir les images. On a vu ces petits, parce que ce qu'on vient d'écouter, c'est visuel aussi, et ça donnait tellement envie. On a bien hâte bientôt une projection à la maison.
En lisant pas mal d'informations autour de la question de la transsexualité des animaux. On voyait plein de termes différents sur nos sources. Le terme d'hermaphrodite ou le terme d'intersexué. Et du coup, je tenais un peu à expliquer pourquoi on parle d'un ou de l'autre terme. Parce que, en fait, le terme hermaphrodite, il est utilisé pour définir des animaux qui possèdent des organes génitaux qui ont un mélange de caractères mâle et femelle. Et en fait, il fait référence à Hermaphrodite, qui est une figure de la mythologie grecque, ayant des organes sexuels mâles et femelles, tous deux pleinement fonctionnels. Et vu que chez les humains, ça ne reflétait pas la réalité, on préféra utiliser le terme intersexué, qui du coup, une personne intersexuée née avec des caractères génitaux gonadiques ou chromosomiques qui ne sont pas en adéquation avec la définition binaire du mâle et ou de la femelle. Alors que dans le monde animal ou végétal, on parle d'hermaphrodisme, car certaines espèces possèdent les deux sexes fonctionnels pour la reproduction.
Comme par exemple quand on parle du mouflon du Canada, donc cette espèce de mouton bélier, je ne sais pas trop, les mâles vivent d'un côté et les femelles vivent de l'autre, ils vivent en troupeaux séparés et ils se rejoignent de temps en temps pour éventuellement avoir des coïts de reproduction. Mais quand ils vivent séparés, comme ça, donc une fois par an, et quand ils vivent séparés, en fait, il y a certains, par exemple, les mâles peuvent rejoindre le troupeau femelle et apparemment adoptent les codes de la femelle pour avoir l'air d'une femelle, et ce qui, par exemple une façon de faire pipi qui est différente des mâles et tout ça. Et là, dans ces cas-là, on appelle ça plutôt...
Eh bien, plutôt intersexué. Hermaphrodite, on l'utilise par exemple pour beaucoup chez les mollusques, par exemple les lombriques ou les escargots, et ça se retrouve aussi beaucoup chez les mollusques du monde marin, notamment les bivalves, les coquilles Saint-Jacques, les huîtres.
Les moules.
Les moules. Bon, voilà, c'est un peu brouillon et j'aurais préféré parler de ça de manière plus claire, mais je suis, je pense, à la fois pas assez préparée et aussi très stressée parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est ma première émission de radio. Alors, je ne sais pas si ça s'entend, mais à l'intérieur de moi, ça bouillonne. Mais j'espère que dans 5 ans, quand vous m'écouterez encore à cette émission, vous ne m'entendrez pas rigueur. Pour faire une petite respiration, on va passer une musique de Anony qui s'appelle Fort de Grise, que j'aime beaucoup, qui m'a été transmise par une amie qui m'est chère. Et cette chanson est à prendre au second degré. Elle parle de la destruction de la planète avec le réchauffement climatique et qu'il manque plus que 4 degrés pour que tout pète. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 I wanna see this world, I wanna see it boil. I wanna see this world, I wanna see it boil. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. Crying for water. I wanna see the fish go belly up in the sea. And all those lemurs and all those tiny creatures. I wanna see them burn. It's only 4 degrees.
Isabella Rossellini en prof de bio ou de vie affective et sexuelle, puisque vous savez que les 3 heures par an de vie affective et sexuelle sont obligatoires et qui ne sont pas tenues. Moi, j'en profite pour passer mes petits messages. Bon, avec Isabelle, la biologie, la sexualité et même l'art plastique sont extrêmement passionnants. La star, en tout cas, dévoile son côté badin avec ses 3 mini-séries inventives et originales du green porno. Et qui nous plonge dans l'univers coquin des animaux, regorge d'ingéniosité visuelle et d'humour, tout en se révélant extraordinairement instructif. Clairement, Green Porno s'éloigne du format trop familier du documentaire animalier, lui préférant l'emploi malin de marionnettes et de décors en papier coloré afin de recréer les habitudes de reproduction et les comportements des animaux. Vêtue de costumes bidouillés, éclatants et parfois bizarres, Rossellini mime avec entrain ses rituels lascifs, passant d'une femelle araignée revancharde à un petit ver qui se tortille. La joie de vivre irrésistible qui se dégage de chaque épisode où se rencontrent monologues humoristiques et faits scientifiques rappelle les débuts vaudevillesques et expérimentaux du cinéma. Des étreintes à 20 bras, des calamars aux orgies, des anchois, ces pastilles divertissantes rejettent les binarités sexuelles et montrent la richesse de la biodiversité. Alors, détendez-vous et laissez Isabella Rossellini vous guider comme nul autre dans ce royaume animal qui ne cessera jamais de nous surprendre. On vous propose ici aujourd'hui un petit essai d'une vidéo avec une voix narrative qui explique les images, la voix d'Isabella qui est américaine, avec une traduction d'Harmonie. Gros plan sur la tête d'Isabella, recouverte d'une cagoule dorée avec deux antennes. Plan éloigné, décor pièce camailleux de verre, elle apparaît entièrement recouverte d'un juste corps incroyablement doré et extrêmement serré.
Si j'étais un escargot, j'aurais un bon gros pied gluant.
Elle peine à décoller du sol son gigantesque pied d'une matière gluante. Puis, enchaînement de gros plans sur les bouts de son corps qui se tortillent.
Je tordrais mon corps pour tenir dans ma coquille.
Gros plan sur sa tête paisible, entourée de boudins dorés. En quelque sorte, une tête enjouée d'être écrasée de coussins matière satinée.
Mon pied arriverait tout en bas, me permettant de ramper. Mon anus finirait au-dessus de ma tête. Malheureusement.
Retour au gros plan, pièce camailleux de verre. Au sol, des brindilles de carton verte foncé, disséminées, représentent des touffes d'herbe. Isabella jaillit au sol d'une énorme coquille d'escargot en tissu. De tout son long, elle glisse sur une matière gluante. Elle va et vient de sa coquille.
Je peux rétracter mon corps tout entier dans ma coquille.
Puis sort ses deux bras, tendus en avant. Recouvert aussi de satin doré moulant. À ses extrémités, à la place de ses mains, des cônes pointus, toujours dorés.
Où je peux y cacher mon vagin et mon pénis. J'ai les deux.
Plan éloigné, camailleux de verre et touffe d'herbe en carton, un autre escargot, un gros boudin doré, coquille en tissu et spiralée. Cône en avant. Les deux boudins dorés au sol recouverts à moitié par leur coquille. Face à face, s'active les pointes.
Je peux produire des dards. Je les utilise pour infliger de la peine à mes partenaires avant de m'accoupler. Cela m'excite. J'aime aussi qu'on me fasse mal.
Plan rapproché, les deux escargots debout, leurs deux ventres collés, s'enfoncent réciproquement leurs pointes dans leur matière dorée. La tête d'Isabella part en arrière. Puis, gros plan de deux coussins face à face, percés chacun d'un tunnel rosé et se faisant remplir de leur cône satiné doré. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça
sadomasochisme sort. Le sadomasochisme m'excite.
Que ferais-je sans vos ressources, Doc et Joule.
Ressources. 5 ressources par jour. Pour votre santé, n'oubliez pas de consommer 5 ressources par jour.
Les ressources, tout simplement.
Alors, par quelles ressources on commence? Parce que c'est vrai qu'on a. C'est la mine d'or un petit peu là.
Moi, je vais commencer par la ressource qui m'a fait un peu mettre le nez dans cette thématique,
ouais.
Qui est un fanzine qui s'appelle Zoologie Queer. Il y a 3 articles qui sont détaillés. Le premier, c'est trop bien, c'est un queer bestiaire avec différentes observations de comportement d'animaux. Le deuxième, ça parle pas mal de l'hétérosexisme dans le milieu de la science et notamment de la zoologie. Et le troisième article, c'est une grosse critique de la théorie darwiniste de l'évolution. Comme quoi, on le répète, on ne fait pas du sexe que pour se reproduire, mais aussi pour se faire plaisir, avant tout.
Claire.
Et moi, je me rappelle, en fait, on a parlé de ce fanzine avec les copaines, et puis le premier truc que je me suis dit, c'est purée, mais en fait, pourquoi on n'a pas ça en cours d'SVT, quoi ? Mais, petite transition vers une autre ressource, qui n'est pas ma préférée, mais qui est quand même toute intéressante. C'est Thierry Laudet qui a écrit un livre qui s'appelle « Tous les sexes sont dans la nature ». Et Thierry Laudet, c'est un éthologue qui est assez intéressant, qui critique beaucoup justement, un grand critique de la théorie de l'évolution et qui parle beaucoup de l'homosexualité et les différentes sexualités dans le milieu animal. Mais ça reste un gars cis blanc un peu boring qui n'a pas du tout une parole féministe et ça se ressent à fond dans son bouquin. Il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants et il y a des trucs qui sont super chiants, quoi. Voilà, on le garde pour des bouts, on le vire pour d'autres bouts, quoi.
Et tu en as d'autres ?
Ouais, j'en ai une autre. C'est Emmanuel Puydeba qui a écrit Sexus Animalus, qui, je trouve, est un super bouquin qui parle un peu de la diversité des sexes présents dans la nature. Et bon, après, elle parle beaucoup de pénis. Et elle le justifie et presque s'en excuse parce que elle précise dans le milieu scientifique, on observe beaucoup plus les pénis que les vagins. Donc voilà, c'est un peu dommage. On attend que dans les 20 prochaines années, ça se passe différemment. Mais après, elle parle beaucoup des pénis et des différentes formes de pénis, notamment des pénis éjectables.
Comme le faux bourdon, j'en ai marre de dire le mâle, la femelle, ça me fatigue. Mais bon, en fait, c'est le mâle de l'abeille. Le faux bourdon a un pénis, mais comme plusieurs insectes, hein, en fait, c'est assez passionnant. C'est ce bourdon qui ne sert qu'à donner du sperme une fois par an, quand la reine sort de la ruche, saute sur la reine, enfin. Ils vont être entre 5 et 19, hein, ils ne vont pas être plus, alors qu'il y en a beaucoup plus. Et là, il fonce dessus avec son ophalotus, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. En tout cas, il lui saute dessus, il rentre, son pénis se retrousse comme un gant, qui sort un peu de son corps comme ça, qui se retrousse, quoi. Tac, il lui enfonce dedans, il éjacule. Et en fait, la puissance avec laquelle il éjacule, ça fait qu'il est projeté, propulsé en arrière à des kilomètres, parce que c'est une grosse puissance. Et en fait, il en meurt, il meurt. Parce que son pénis reste coincé dans l'abeille, qui, oui, pour l'abeille, sert de bouchon. Alors, et en plus, elle va quand même recevoir 5 à 19 autres couches de sperme, donc possiblement d'autres dards. Tu te dis, mais en fait, elle est poignardée, quoi. Mais non, a priori, voilà.
Mais en fait, lui, il fait ça pour faire un bouchon, pour éviter que d'autres mâles puissent introduire leur spermatozoïde en elle, quoi. Et en fait, lui, du coup, c'est pas tant un pénis éjectable parce que, détachable. Enfin, du coup, c'est avec la force de l'acte sexuel qui se retrouve propulsé en arrière et il se déchire. C'est pour ça qu'il meurt. Mais il y a des espèces comme l'argonaute voilier qui, lui, carrément, de loin, va détacher son pénis et l'envoyer par propulsion vers une femelle. Bon, on revient sur le mâle et femelle, mais.
On a du mal à en sortir dans cette thématique. C'est compliqué parce que les scientifiques appellent ça tout le temps comme ça. Enfin, je veux dire, c'est...
En tout cas, ce livre s'appelle Sexus Animalus, tous les goûts sont dans la nature et il est assez beau. Il a été illustré par Julie Terrazoni. Donc, il y a des jolis dessins et les descriptifs un peu de toutes ces différentes... les particularités... En fait, c'est un peu... Ça met en avant les particularités de génitales de plein d'espèces qui ont évolué avec leur manière d'interagir entre elles. Quoi. Mais ça va à travers la reproduction comme à travers des manières de donner du plaisir.
Moi, je voulais vous parler de ma petite pépite de ces recherches. C'est Fleur Dauget, qui a suivi une formation en psychologie et en éthologie, et puis qui a consacré pas mal le début de sa carrière à plusieurs ONG, pour enfin se tourner vers l'écriture. Donc maintenant, elle se définirait plutôt comme écrivaine, journaliste et éthologue. Et elle a fait ce livre de vulgarisation scientifique sur l'histoire des animaux homo et l'histoire naturelle de l'homosexualité, qui s'appelle Animaux homo, notamment parce qu'elle raconte que au mariage, pendant les revendications du mariage pour tous, elle était vraiment un peu abusée d'entendre « oui, mais c'est contre nature, c'est pas de l'ordre nature », et du coup elle s'est lancée dans des recherches, et aussi que plutôt dans la vie, apparemment, les sujets un peu touchy, c'est plutôt son truc. Et du coup, elle a sorti donc ce livre, Animaux homo, qui, moi, je ne l'ai pas lu, mais on trouve beaucoup de sources sur Internet. Dès qu'on tape un petit peu sur le net l'histoire de l'homosexualité chez les animaux, on tombe beaucoup sur cette personne qui est très contemporaine, hein, quand même, et qui s'est beaucoup documentée sur les essais passés et qui a aussi mené certaines études. En tout cas, son livre, il renverse bien des idées reçues, parce que Fleur Dauget montre que la vérité et l'exubérance sont des principes que l'on rencontre partout dans la nature et que la sexualité ne fait pas d'exception. Et elle insiste sur le caractère fluctuant de la catégorie de sexe dans le monde animal, qui n'est pas aussi figé que nous l'imaginons et qui nous permet de remettre des choses en perspective pour l'homme et sur les questions non seulement d'homosexualité, mais aussi de bisexualité et de transsexualité. En tout cas, ça nous les montre sous un nouveau jour. Voilà, c'était ma petite pépite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, mais il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par des mecs cis. Bon, voilà.
Et après, petite ressource qui n'est pas que orientée sur la sexualité des animaux, mais il y a la collection d'Actes Sud qui s'appelle Monde Sauvage, que j'aime beaucoup. Et je voulais juste parler du livre qui s'appelle Les fantômes de la nuit de Laurent Tillon, qui parle du lien entre les chauves-souris et les hommes. Et du coup, là-dedans, ça parle beaucoup aussi de la sexualité des chauves-souris et aussi de leur manière de s'organiser en collectif. Et c'est un livre que je trouve important parce que ça met vraiment beaucoup de parallèles entre la manière dont on vit. Enfin, quand je dis on, c'est
nous.
Moi et mes comparses sur notre manière de s'organiser en collectif et de faire force en collectif. Et aussi, ça met beaucoup en évidence le fait que l'homme nique la planète et du coup stresse les animaux qui développent des virus et après qui refilent leurs virus aux hommes. Et moi, c'est un truc. Enfin, je tenais quand même à faire un petit aparté là-dessus parce qu'en fait, on parle beaucoup des chauves-souris comme des espèces qui transmettent des maladies et en fait, la majeure partie des virus qu'elles propagent, elles les développent parce qu'elles sont stressées par l'environnement humain.
Mais c'est vrai que c'est une collection qu'on aime beaucoup, où on peut trouver Vinciane Després d'ailleurs dans cette collection.
Autobiographie d'un poulpe. Exactement. Et Habiter en oiseau.
Exactement.
Qui sont deux livres vraiment super.
Exactement. J'acquiesce tout ce que tu dis.
Ah bah ouais, non, franchement, cette collection, on les veut, on les veut.
Il est grand temps, mais largement temps de se quitter, mais on pourra revenir, parce que d'ailleurs on revient le mois prochain. Et...
Non mais en plus on voulait faire une belle transition, mais en fait finalement on en a parlé au tout début de l'émission, alors que c'était l'idée d'en parler à la fin de l'émission, ouais. C'était de parler de tous ces animaux qu'utilisent des petits cailloux, des branches d'arbres,
grosses
pour
branches.
Se frotter et se stimuler et avoir des orgasmes avec
seul
des sextoys.
Ou à plusieurs. Voilà, donc peut-être on fera ça. En fait, on vous laissera la surprise.
Oui, bah après, on s'est un peu gouré parce qu'on avait imaginé qu'elle allait être diffusée en décembre, mais finalement, ce sera le mois prochain. Et voilà, on s'est dit, c'est bien de parler de ça en décembre pour les personnes qui manquent d'idées de cadeaux de Noël. Bon, on en parlera en janvier, mais avant ça, n'hésitez pas à acheter et à offrir plein de sextoys à vos amis, vos amants.
N'arrivez pas à Noël avec une branche ou un caillou, ça ne marchera pas, même si vous dites « mais écoute cette émission !»
Des concombres peut-être.
Allez, on y va, on s'en va. Des gros bisous à vous tous.
by myself.
C'est pas exactement ça la chanson, c'est All by myself. Enfin, d'ailleurs, je suis même pas sûre que ce soit vraiment ça non plus, mais c'est pas goodbye.
Bye bye, au revoir. C'est fini, à bientôt.
J'espérais tellement les revoir.
Au revoir moi-même. Oh, wanna be. Au revoir moi-même. Anymore.
C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était la fin.